Voici Sylvain Lévesque.
Le chocolat, les bouteilles de vin, les fleurs, est-ce que c'est fait, Stéphane?
Écoute, en partie, parce que j'écoutais la fin de ton entrevue, effectivement. Moi, c'est fait depuis avant-hier. Avant-hier, je suis arrivé avec des fleurs, des roses rouges, justement, que j'ai offert à Isabelle, ma conjointe, que tu viens de saluer et nommer. Mais honnêtement, je vais être très honnête avec toi, règle générale, je suis retardataire aussi, si je regarde mon passé. Mais je tends à changer avec le temps, là. Je réalise que c'est moins stressant se prendre d'avance.
T'es un homme en transformation sociale, Stéphane Viau, mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle, même si la Saint-Valentin alimente évidemment une partie de notre émission d'aujourd'hui. Tu veux me parler, c'est l'autre sujet qui passionne les Québécois présentement, c'est les Olympiques. On parle un peu moins de politique, mais il y a des liens à faire entre la politique et le sport, notamment les Jeux olympiques.
Ben tout à fait, Sylvain, parce que... Ben d'abord, on va partir de l'origine des Olympiques. Pierre de Coubertin, quand il a relancé les Olympiques version moderne, ce qu'on connaît aujourd'hui, il y avait derrière tout ça un objectif de dépolitisation, c'est-à-dire de favoriser le rapprochement entre les peuples d'une part et d'autre part, et ultimement, si on veut, favoriser la diplomatie au détriment de la guerre, finalement, donc favoriser la paix entre les différentes nations et les différents États. Toutefois, quand on regarde tout ça, bien, on réalise que le monde du sport, c'est un monde hautement politique. Il y a peut-être des gens présentement qui sont tannés des fois d'entendre de la politique partout, des médias, puis ils disent « Enfin, avec les Jeux, on va entendre parler de sport. » Bien, je veux dire, sans aller aux Jeux olympiques, je veux dire, avant une game d'hockey, on fait jouer les hymnes nationaux. C'est donc, actuellement, dans la totalité des Jeux olympiques, lors des cérémonies d'ouverture, c'est la cérémonie surtout des drapeaux. Les chefs d'État sont dans des galeries d'honneur. Déjà là, il y a une dimension politique importante. Mais c'est là qu'est tout le paradoxe du monde du sport, parce que la prémisse sur laquelle on se basait justement pour dépolitiser, c'est le fait que le sport a une particularité. Les règles sont les mêmes partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elles sont universelles, elles transcendent les frontières, les cultures, les religions. Il n'y a pas besoin de faire d'accommodement raisonnable dans le monde du sport. Et ça, c'est une particularité. C'est une des seules dimensions de la vie humaine qui est comme ça. Parce que en parallèle, on peut mettre l'économie où, dans le cadre de la mondialisation, on avait un peu relativement le même objectif, c'est-à-dire favoriser la diplomatie, la judiciarisation au détriment de la guerre derrière tout ça. Bon, de ce côté-là, on voit un échec, mais dans le monde économique, il y a quand même des enjeux stratégiques et des enjeux vitaux pour plusieurs États, quand on parle d'approvisionnement, par exemple, en ressources énergétiques et tout autre. Ce qui n'est pas le cas dans le sport, que ce soit un pays complètement démuni ou un pays riche, ou peu importe la région que tu pratiques, quoi que ce soit, n'importe qui, avec évidemment un minimum de budget quand même, mais peut accéder aux Jeux olympiques. Donc, le sport, si on veut, a sa particularité de ce côté-là. Mais en même temps, c'est un des domaines les plus hautement médiatisés. Qu'est-ce qu'on retient, Sylvain, de l'ouverture des Jeux actuels? Ben, c'est la présence de la sœur de Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord.
Justement, Stéphane, justement, cette présence-là de la sœur de Kim Jong-un, est-ce que ça laisse supposer un réchauffement entre les deux Corées, selon toi, ou c'est juste la frime, c'est juste pour se donner bonne image? Kim Jong-un, dans le fond, il poursuit ses démarches de nucléaire, comment dirais-je l'expression, de création de bombes nucléaires ou d'outils atomiques. Est-ce que au contraire, c'est juste la poudre aux yeux ou c'est réellement sincère?
À mon avis, OK, selon mon analyse et ma connaissance de la région, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que c'est une manœuvre de relations publiques. Et d'ailleurs, Kim Jong-un, ce qu'il fait depuis un an, c'est surtout de la relation publique. Je me rappelle, on a fait une chronique à l'effet, est-ce que la menace est réelle ou non, puis je t'avais donné ma position, c'était non. C'est-à-dire que la Corée du Nord, il y a des enjeux en mer de Chine hautement stratégiques. La Corée du Nord va être un joueur à table des négociations, puis s'organise pour l'aide par le rapport de force. Mais durant les Jeux olympiques, au contraire, la plupart des États vont plutôt tendre vers, si on veut, un retrait de la tension, justement pour des raisons de relations publiques. Si on verrait difficilement Kim Jong-un réactiver une menace de bombe nucléaire pendant les Jeux olympiques, parce qu'il perdrait, si on veut, le peu d'appui qu'il peut avoir au sein des relations publiques. Parce que on le dit tout le temps, hein, la première guerre qu'il faut gagner, c'est la guerre de l'opinion publique. Alors, quelqu'un qui ferait une telle manœuvre durant des Jeux olympiques, ça va de soi que là, il y aurait le monde entier. Même le peu d'appui qu'il peut avoir, c'est contre lui. Là, alors, justement, sachant ça, ben on pose un geste de détente, on pose un geste de rapprochement, mais qui est purement du théâtre en réalité. Puis le président de la Corée du Sud peut pas le refuser pour les mêmes raisons. T'sais, c'est pour ça qu'on les a retrouvés un à côté de l'autre. Mais c'est pas demain matin, la veille, qu'il va y avoir un rapprochement entre les États. Les intérêts sont beaucoup trop divergents de ces deux États-là présentement. Et les alliances stratégiques également à l'échelle internationale. Je veux dire, c'est deux camps complètement opposés. Donc, c'est purement du théâtre pour montrer que la Corée du Nord est capable de s'ouvrir, etc. C'est comme ça que je l'analyse personnellement.
Les Jeux olympiques, Stéphane, ça a longtemps été un outil de propagande politique, économique aussi. On utilisait, en fait, les Jeux olympiques pour montrer à la face même de la planète notre puissance. Et les Jeux là, de Sotchi qu'on a connus il y a 4 ans ont coûté plus de 50 milliards. Tu sais, ça a été complètement fou. Et on le sait que les Jeux olympiques, de moins en moins, font leurs frais. Oui, il y a de la visibilité, mais il y a des coûts élevés. Je me demande, est-ce que dans ton analyse que tu regardes ça, penses-tu que les Jeux olympiques, là, on s'en va vers... Parce que je constate qu'il y a moins de pays, moins d'États qui veulent les organiser. D'ailleurs, la Ville de Québec a complètement rejeté l'idée, il y a quelques jours, là, de réorganiser les Jeux olympiques. Pourtant, en 2002, on était presque à genoux pour les avoir, les Jeux olympiques, au Québec. Est-ce que, d'après toi, on s'en va vers un lieu, exemple, unique de Jeux olympiques? On organise ça dans tel pays, puis ça va toujours se passer là. Les infrastructures vont déjà exister, puis on va les moderniser un petit peu, mais à peine, là. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers ça?
Ben écoute, c'est une hypothèse qui est plausible, parce qu'effectivement, les coûts sont de plus en plus faramineux. En moyenne, là, évidemment, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais en moyenne, c'est de 300% qu'on dépasse les coûts projetés lorsqu'on se met à construire les installations olympiques dans la ville haute, puis les infrastructures qui vont avec, hein, parce que souvent, il faut rajouter des autoroutes, améliorer les transports en commun, améliorer les voies d'accès entre là ou les aéroports et le centre où va se passer les Jeux, etc. Par contre, de ce côté-là, je dirais que ça met en place des infrastructures qui restent par la suite. On n'a qu'à penser au métro de Montréal, par exemple, après les Olympiques de 76. Mais, n'en demeure pour moi que ces coûts-là, puis, tu sais, notons-là encore, c'est pour des raisons politiques que ces coûts-là sont justifiés. Parce que la ville sait très bien, et l'État qui est derrière cette ville-là, c'est très bien qu'ils vont avoir les yeux du monde entier sur eux autres pendant quelques semaines. Alors, ça va de soi qu'ils mettent le paquet pour montrer que c'est un pays qui est prospère, que c'est un pays qui est uni, que c'est un pays qui est sur la pente de l'ascension. Tu sais, ils mettent le paquet pour montrer que c'est le plus beau pays du monde, pour paraphraser un ancien premier ministre du Canada.
Oui.
Alors, tu sais, mais qu'est-ce qui motive tout ça, qui nous amène, si on veut, à être non rationnel dans ces dépenses-là? C'est encore des raisons politiques qui sont derrière ça. Et j'ajouterais aussi, si on veut, dans les facteurs politiques, mais il y a beaucoup d'Olympiques qui ont servi à des revendications. On n'a qu'à penser en 68, les Jeux olympiques de Mexico, où il y avait deux Noirs qui étaient montés sur le podium, et durant l'hymne national, il avait levé le poing dans les airs, puis baissé les yeux au sol pour revendiquer, si on veut, la fin du ségrégationnisme, d'une forme de ségrégationnisme aux États-Unis, de racisme aux États-Unis. Jusqu'en 1992, l'Afrique du Sud n'avait pas accès aux Jeux olympiques à cause de l'apartheid qui était pratiqué dans ce pays-là. Les actuels Jeux, on a rejeté les Russes. Les Russes sont pas présents. Il y a des athlètes russes, mais la Russie n'est pas là en tant qu'État.
Exact.
On dit que c'est pour des raisons de dopage. Mais toi, puis moi, Sylvain, c'est très bien qu'il y a des facteurs politiques derrière ça aussi.
Absolument. Stéphane Viau, merci beaucoup d'avoir contribué à cette émission. Très intéressant. Olympique et sport, évidemment, toujours intimement reliés. Merci, Stéphane.
Je t'en prie, Sylvain. Salut bien.
Merci, Stéphane Viau. En remplacement de moi-même comme chroniqueur politique, toujours très intéressant.